se han visto algunos cambios, pero...
Les choses changent, mais il y a beaucoup d'incertitudes, notamment avec l'élection de Trump. Nous avons peur qu'il revienne sur tout ce que nous avions obtenu avec Obama et Raoul.
Cuba a énormément à gagner avec la fin de l'embargo. Il y a tout à faire. Je suis sûr que les entreprises américaines adoreraient participer à ce commerce.
Je sais que nous avons des problèmes. Nous devons en être conscients. Les choses vont changer, mais pas de la manière dont les États-Unis le veulent.
Soixante années d'obsession, de mépris et de haine farouche entre l'oncle Sam et le petit confetti communiste situé à 144 kilomètres seulement des côtes américaines. Au point que l'ancien chargé de mission à Cuba, l'ancien chargé de mission américain, devait emmener encore en 2008 sa femme à la plage pour que le bruit des vagues couvre les propos qu'il souhaitait lui tenir. Son chauffeur, ses employés étaient des espions et sa résidence truffée de micros. 60 années d'une défiance absolue et puis, après des mois de tractations secrètes, ce tout début d'une idylle à l'été 2015. Tout début car le blocus qui étouffe la Havane depuis le renversement du dictateur Batista est loin d'être levé. Cuba n'a ni accès au FMI aujourd'hui, ni à la Banque mondiale et nul ne peut commercer en dollars américains avec l'île castriste. Le régime dépend donc d'alliés comme la Russie, la Chine, le Venezuela ou encore l'Angola qui osent se moquer des foudres de Washington. Pour lever le blocus, il faudra l'accord du Congrès américain et du successeur de Barack Obama, Donald Trump, qui paraît loin de vouloir tendre la main à un pouvoir encore très autoritaire et qui bafoue toujours les droits de l'homme. Il est vrai que le marché cubain et ses 11 millions d'habitants n'a pas vraiment de quoi faire rêver les multinationales yankees. En revanche, Cuba aurait tout à gagner à cette ouverture sur le monde. L'île, qui s'enorgueillit d'avoir formé un médecin pour 150 habitants et qui scolarise toute sa jeunesse, impose toujours des tickets de ration à ses habitants. 5% au mieux des foyers cubains ont accès au web, qui est d'ailleurs censuré. Et une heure de connexion Internet dans l'un des rares cybercafés de la Havane coûte 2 dollars. C'est un tarif absolument prohibitif quand on pense que le salaire moyen à Cuba est de 20 dollars par mois. Cuba face à l'Amérique de Donald Trump, une nouvelle donne. C'est un reportage signé Sophie Delpont. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes ce soir en compagnie de Jeannette Abel. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Institut des hautes études d'Amérique latine à l'Université Paris 3. Vous êtes chercheur, bien sûr, et spécialiste de Cuba. Et puis nous sommes avec Philippe Golub. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris et avec Sophie Delpont ici en studio. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Tara, bonsoir à tous.
Vous étiez à Cuba au moment des funérailles de Fidel Castro. C'était le 4 décembre dernier. Et évidemment, c'était un moment très particulier pour les Cubains. Toute la presse internationale s'est retrouvée à la Havane. Avez-vous senti à ce moment-là, Sophie, que la population était plus libre de parler ?
Alors, pas forcément plus libre, mais une profonde envie d'échanger, notamment avec les journalistes étrangers qui étaient venus en masse sur place. La liberté d'expression n'existe toujours pas à Cuba, contrairement à ce qu'a pu déclarer Ségolène Royal sur place, à Santiago de Cuba, alors qu'elle était invitée à l'enterrement de Fidel Castro. Les arrestations et les emprisonnements arbitraires existent toujours et vous allez pouvoir vous en rendre compte dans ce reportage.
Alors en direction tout de suite la Havane où débute justement votre magazine.
Je m'appelle Maria Elena, j'ai 48 ans. Nous sommes à Cuba, à la Havane, dans un hôtel familial à l'angle de la rue Animas et de la rue Campanario. Cette maison d'hôte fonctionne depuis peu de temps, seulement 3 mois.
Combien d'argent vous avez investi pour pouvoir rénover cette maison d'hôte ?
Je ne sais pas, on rénove petit à petit, en multipliant les travaux. On a changé les lits, les meubles. On a aménagé le jardin. C'est une très grande maison, donc cela nous a pris du temps.
En discutant avec une Cubaine qui aimerait faire des travaux chez elle pour pouvoir accueillir des touristes, cette femme m'a dit que le montant de la rénovation s'élevait à près de 15 000 euros pour les travaux. C'est environ le montant que vous avez dû payer ?
Oui, je pense que c'est de cet ordre-là. Parce qu'ici à Cuba, les travaux coûtent très cher. Avec l'embargo, nous manquons de matériaux de construction.
Alors que le salaire de la plupart des Cubains est compris entre 20 et 40 couks, c'est-à-dire entre 20 et 40 euros par mois.
Oui, on ne gagne pas souvent plus que ça. C'est pour cette raison que beaucoup de Cubains vendent de la nourriture et essaient de vendre un peu tous les produits qu'ils peuvent trouver afin de gagner un peu d'argent. Certains travaillent dans des cafétérias. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour compléter le mois.
Est-ce que vous avez vu le changement ici ?
Les choses changent, mais il y a beaucoup d'incertitudes, notamment avec l'élection de Trump. Nous avons peur qu'il revienne sur tout ce que nous avions obtenu avec Obama et Raoul. Les Cubains ont besoin d'une grande ouverture économique pour améliorer la situation du pays et tourner la page du blocus qui est en cours ici depuis plus de 50 ans. Nous voulons toutes ces évolutions, mais nous ne voulons pas d'un changement brutal, pas comme lors de la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique. Nous ne voulons pas que la situation évolue vers une pauvreté extrême, comme elle peut exister dans d'autres endroits du monde.
Nilda Nápoles García es mi nombre. Tengo 80 años. Nací.
Alors, je m'appelle Nilda Nápoles García, j'ai 80 ans, je suis née en 1936.
Soy profesora de historia.
Je suis professeure d'histoire, j'ai travaillé à l'université de Camagüey jusqu'à quelques années. La révolution a créé ici à Camagüey la première université ici de tout le pays, de Cuba.
Quelle est l'histoire de l'embargo ? Comment ça a commencé ?
Alors, l'embargo commence avec le triomphe de la révolution. Les grandes entreprises étaient propriétés des États-Unis.
Y por tanto, fundamentalmente, la producción azucarera.
Donc la production du sucre et du pétrole, c'était indispensable pour notre pays.
Por tanto, se nacionalizan.
Alors des fabriques où on produisait le sucre, ce qu'on appelle centrales azucareros, ont été nationalisées à partir du triomphe de la révolution.
Nuestra producción azucarera nunca Cuba la pudo vender libremente.
Alors notre production de sucre, on ne pouvait pas la vendre à l'étranger. En fait, il y avait une taxe pour vendre une quantité déterminée de sucre à l'étranger.
Al triunfar la révolution.
Alors à partir du triomphe de la révolution, Cuba a essayé de vendre son sucre à l'étranger. En fait, c'était la Russie qui a dit qu'elle voulait acheter tous les sucres qu'on avait dans le pays et qu'elle voulait nous aider dans l'économie du pays.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Alors, les États-Unis n'ont pas été d'accord avec cette nouvelle manière pour nous, cette nouvelle possibilité de vendre le sucre, surtout avec un pouvoir comme la Russie. États-Unis a mis des interdictions, en fait, pour ne pas vendre le sucre, et nous a enlevé le pétrole. Et en fait, c'était la Russie, encore une fois, qui nous a aidés et qui a décidé de nous acheter tout le pétrole. Et si on avait besoin de pétrole, elle allait nous vendre le pétrole. Alors Cuba répond de ce fait à cette interdiction des États-Unis avec la nationalisation de toutes les raffineries du pétrole qui étaient en main des Américains ici à Cuba.
À partir de ce moment,
c'est à ce moment-là que commence l'embargo des États-Unis contre Cuba.
En quelle année ?
Esto debe haber sido 60, 1960.
C'était environ 1960.
Ante esta situación, comienzan a no bloquear.
Alors, à partir de ce moment-là, États-Unis commence le blocage de tous les produits dont on avait besoin. Et malheureusement, comme Cuba, on est dépendant des États-Unis. États-Unis décide de ne pas envoyer plus tous les produits dont on avait besoin. Et de ce manière, Cuba devient un pays, en fait, démuni.
Le blocage.
Ce n'est pas un embargo, c'est un blocage.
Es bloqueo.
Au centre de la presse internationale, en attendant d'obtenir le visa de journaliste, je rencontre un blogueur américain. Il s'appelle Kenneth Priter et il s'interroge sur la responsabilité des États-Unis dans la situation de Cuba aujourd'hui. La télévision tourne en boucle et diffuse à la chaîne des documentaires à la gloire de Fidel Castro. Tout autour de nous, posés sur les tables, des journaux qui dénoncent l'embargo américain.
J'ai essayé de garder l'esprit ouvert quand je suis arrivé ici. En marchant dans les rues, je suis arrivé à la conclusion que pour moi, l'embargo est immoral. L'état dans lequel le pays se trouve et le délabrement des infrastructures, c'est directement lié à l'embargo. Et ce n'est pas juste. Vous pouvez argumenter et dire que c'était peut-être approprié dans les années 60 ou les années 70, mais c'était il y a longtemps. Et la plupart des personnes qui déambulent dans les rues aujourd'hui n'étaient pas nées à l'époque. Elles n'ont rien fait de mal et elles souffrent tous les jours à cause de mon pays. Et cela me fait honte de le dire.
Avez-vous peur de ce que Donald Trump va décider par rapport à l'embargo ?
Oui. Trump est affreux. Mais je crois vraiment que Trump est un négociateur, c'est un joueur de poker. Et ce que je pourrais dire à Donald Trump, c'est que cette île est une opportunité à exploiter. C'est la manière dont il y penserait. Moi, je dirais développement, progrès. Objectivement, il y a cette architecture fantastique des années 50, des routes de bonne qualité. Si vous supprimez les barrières, l'argent va affluer et cela peut être un grand succès. Je pense que lorsque Donald Trump regarde la situation, il y voit des millions de dollars. Donc je pense qu'il va jouer son rôle de joueur de poker et tenir des discours très agressifs, mais que ce sera du bluff. Au final, s'il y a une chance de faire de l'argent et qu'un accord est possible, il le signera pour faire de l'argent et toujours plus d'argent.
Pensez-vous que Cuba a plus à gagner qu'à perdre dans la fin de l'embargo, ou bien ce sont les États-Unis qui ont plus à y gagner ?
Cuba a énormément à gagner avec la fin de l'embargo, et ça aidera aussi les États-Unis. Si vous réfléchissez à tout ce qu'il y a à construire ici à Cuba, tout a besoin d'être réparé, rénové, les restaurants, les hôtels, les trottoirs, les aéroports, les ordinateurs, le développement d'Internet, il y a tout à faire. Je suis sûr que les entreprises américaines adoreraient participer à ce commerce. Donc il y aurait des avantages des deux côtés. Ce serait réellement un accord gagnant-gagnant. Et d'autant plus avec le changement de gouvernance dans chacun des deux pays. C'est une bonne excuse pour tourner la page. C'est vraiment le bon moment pour le faire. C'est une opportunité parfaite. Mais c'est aussi exactement le genre d'opportunité que Trump pourrait gâcher. Donc je ne promets rien. Mais c'est une opportunité extraordinaire, il faut la saisir maintenant.
Nous sommes à seulement 150 km des côtes de la Floride, au bord du Malecón, cet immense boulevard qui longe la mer, bordé par les façades délabrées des années 50. Nous sommes ici au pied de l'Hôtel National, ancien haut lieu de la mafia américaine. C'est là aussi qu'on peut voir le bunker construit au moment de la crise des missiles. Des taxis attendent les touristes et parmi eux, il y a Sanchez, un jeune chauffeur de 27 ans, et George, un vélo-taxi de 42 ans.
Le futur, lo veo lento porque...
le futur, je le vois arriver très lentement. En 10 ans, rien n'a changé à Cuba. C'est resté pareil. Mais la jeunesse a besoin d'avoir un avenir, un futur qui vienne vite, un changement rapide. Alors oui, nous avons l'éducation, nous avons la médecine, mais il faut que les choses avancent pour le pays. J'ai étudié la gastronomie pendant 2 ans. J'aurais pu aller ensuite à l'université parce que mon gouvernement me permet de faire des études totalement gratuites. Mais à ce moment de ma vie, ma mère est venue me dire « Si tu continues à étudier, on n'aura plus assez de nourriture à la maison. Si tu étudies, on ne mangera pas. Il faut que tu travailles pour nourrir la famille. » J'aurais aimé étudier, j'aimerais le faire, mais c'est impossible. La politique ne m'intéresse pas. Je veux que ça change. C'est tout.
Vous voulez rester ici à Cuba ?
Oui, je veux rester ici. C'est ma patrie. Partir ne m'intéresse pas, mais je veux que les choses bougent. C'est beaucoup trop lent. Dans les rues, on ne voit pas le changement. La révolution viendra de la jeunesse.
Il n'y a aucun futur ici. Le futur pour les Cubains, c'est de mourir en mer. Voilà l'avenir du peuple cubain tant que la dictature continuera.
Vous avez déjà été arrêté ?
Tout le temps, trois fois par mois, alors que je paye ma licence, je paye tout ce qu'il faut, je travaille. Et on est tout le temps arrêté, pour tout et n'importe quoi. Ils t'arrêtent pour vérifier ton identité, par plaisir, pour rien, et ça se termine en prison.
Est-ce qu'avec les touristes de plus en plus nombreux, la vie s'améliore petit à petit ici ?
C'est une forme d'aide que les touristes apportent au peuple cubain. C'est à peu près la seule aide que nous recevons. Et elle ne vient pas de notre gouvernement, elle vient des touristes. Mais le contact avec les touristes est considéré comme anormal par la police. Ils t'emmènent au commissariat, ils te gardent pendant 7 ou 8 heures, ils te menacent, c'est très dur.
Dans les rues de la Havane, un homme m'aborde. Il s'appelle Ariel, il a une cinquantaine d'années. Il me dit qu'il veut me parler de la vraie vie des Cubains. Alors pour éviter la police, il m'emmène dans un bar, un endroit sûr, où il pense que nous pourrons tourner une interview sans danger.
Ici, les gens ne peuvent pas parler librement avec les touristes. Beaucoup d'étrangers viennent ici. Il y a des groupes qui circulent en bus. Autour d'eux, il y a toujours des policiers pour surveiller. Quand vous parlez avec les gens normaux, vous pouvez savoir la vérité sur la vie à Cuba. C'est pourquoi la police arrête tout le temps ceux qui discutent avec les touristes, alors qu'ils ne sont pas autorisés à le faire. C'est le pays le plus sûr du monde. C'est certain. Le problème, c'est que mon gouvernement doit changer. C'est la liberté d'expression. Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas le dire. Je ne peux parler de rien. Si vous êtes emmené trois fois au poste de police pour avoir parlé avec des touristes, mon gouvernement vous arrête et vous jette en prison.
Vous avez déjà été arrêté par la police ?
Est-ce que j'ai été arrêté ? Combien de fois ? Il y a deux semaines, j'ai été enfermé dans une prison. Un établissement qui n'est utilisé que pour des détentions de 7 à 9 jours. Elle s'appelle Biba. C'est près du parc Lénine. C'est une petite prison réservée aux personnes qui parlent aux touristes. Et rien que pour ça. La police nous arrête parce qu'elle ne veut pas que nous disions la vérité aux touristes sur la vie quotidienne à Cuba.
Combien de personnes sont en prison au moment où nous parlons là en ce moment ? Vous avez une idée ?
D'abord, je dois vous dire qu'à Cuba, il est probable que nous ayons plus de prisons que d'écoles. À La Havane, je connais Bayo Grande, c'est un nom. Queens Ochenta, c'est un autre nom.
Toledo,
Biba,
La Lima.
La Lima. Et dans ces prisons, vous pouvez trouver 2000 à 3000 prisonniers, peut-être plus.
Avez-vous des amis qui sont en prison en ce moment ?
J'ai plusieurs amis qui sont en prison en ce moment. L'un de mes amis travaillait pour un restaurant et parlait aux clients. La police l'a arrêté trois fois et on nous met en prison juste pour ça. Je ne pense pas que tous les opposants soient en prison. Ou bien que les personnes en prison le soient toutes pour des raisons politiques. Mon gouvernement en laisse certaines libres, mais pas tout le monde. Fidel est mort, mais son frère a la même mentalité. Je vous assure, et mon gouvernement le sait très bien, qu'on ne peut pas vivre avec le rationnement qu'il nous donne. Chaque mois, pour un homme, c'est 6 kilos de riz,
3 kilos de sugar,
3 kilos de sucre, 5 œufs, une cuisse de poulet, une petite bouteille d'huile et 1 kilo de haricots. Mon gouvernement vous donne ça pour un mois et c'est pas gratuit. Pas cher, mais pas gratuit. Je peux vous montrer les endroits où on achète tout ça. Je ne raconte pas de bobards, je vous dis juste la vérité.
Mais le lendemain, au rendez-vous que nous avions fixé, Ariel n'est pas venu. Il est devenu injoignable depuis. Je suis actuellement au bord d'une petite route dans la ville de Guantanamo, proximité de la prison des États-Unis. On essaie de savoir ce que pensent les habitants de la présence de cet endroit emblématique, notamment dans le dossier des droits de l'homme. Pour vous, Guantanamo, cette prison-là, elle représente quoi ?
Esa prisión para Guantánamo significa muchas cosas desagradables.
En fait, c'est un endroit qui garde de mauvais souvenirs et en plus, c'est un endroit qui nous appartient. Guantanamo nous appartient. On est les propriétaires de Guantanamo. Et en fait, ce sont les États-Unis qui continuent à avoir cette base à Guantanamo. Ils doivent nous rendre cette base parce que ça nous appartient.
Est-ce que vous avez de l'espoir qu'avec Donald Trump, la base de Guantanamo ferme un jour?
Bueno, por lo que he escuchado en la forma que él hizo su candidatura, es muy difícil. Es muy difícil.
Ça sera trop difficile avec Donald Trump dans la présidence. Je ne pense pas qu'on aura cette opportunité d'avoir la base.
Qu'est-ce que ça fait d'habiter à côté de cet endroit-là si particulier?
Et yo me siento muy cubana y muy revolucionaria.
Je suis très cubaine, très révolutionnaire, donc je suis capable de défendre tout cet endroit, même mon pays, et même s'il existe la base navale de Guantanamo.
Et pour vous, qu'est-ce que ça signifierait demain si la base était fermée et rendue aux Cubains ?
Ça serait incroyable si un jour la base est rendue à nous les Cubains. On ferait des transformations pour la modifier, pour la faire devenir un centre, même pour s'amuser.
Muchas gracias. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente, la prison de Guantanamo ?
Volvé te dire un ridículo. Ridículo. Me afecta el prestigio a nivel mundial.
Ça c'est ridicule parce qu'en fait Cuba c'est un pays socialiste, solidaire, et cette prison en fait nous enlève un peu le prestige dans le reste du monde.
Et pour les droits de l'homme dans le monde, si demain on fermait Guantanamo, pour vous ça voudrait dire quoi ?
Ça serait le bonheur même pour les générations qui viennent en fait. Et pour nous les Cubains aussi, parce qu'on est habitués à lutter pour nos droits, à lutter pour notre liberté.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Après seulement 3 interviews en moins de 10 minutes sur place, nous sommes arrêtés avec ma fixeuse et mon chauffeur. Un homme à qui nous avions parlé nous désigne aux 4 policiers. Nous sommes poussés dans les voitures et emmenés au poste. Interrogé par plusieurs hommes qui se relaient, il nous explique que le visa de journaliste n'a aucune valeur ici et que nous aurions dû nous contenter de suivre le convoi funéraire de Fidel Castro et ne pas chercher autre chose. Nous sommes fichés, puis relâchés. Une arrestation qui survient le lendemain de la déclaration de Ségolène Royal. Invitée à assister à l'enterrement des cendres de Fidel Castro à Santiago de Cuba, la présidente de la COP21 avait alors déclaré qu'il n'y avait pas de problème de liberté d'expression ici et aucun prisonnier politique.
Querida presencia, comandante Che Guevara.
Nous sommes maintenant devant le cimetière de Santiago de Cuba. Des centaines de Cubains font la queue pour aller se recueillir sur la tombe du comandante. Parmi eux, un jeune médecin qui est aussi chanteur, connu sous le nom de El Médico.
I am a doctor. I am singer too.
Qu'attendez-vous du futur ? Pensez-vous que les choses seront différentes maintenant ?
Fidel Castro est mort aujourd'hui, c'est vrai. Mais nous allons continuer. L'histoire de la révolution va continuer, normalement. La vie est normale ici à Cuba. Nous sommes plus forts aujourd'hui, car nous avons Fidel Castro dans notre cœur. Vous comprenez ?
Avez-vous peur de ce qui pourrait arriver si l'embargo était supprimé ?
Ah, s'il n'y avait pas le blocus, Cuba serait vraiment un pays merveilleux. Le plus grand problème que nous avons, c'est le blocus des États-Unis. Nous n'avons pas de problème dans l'éducation. Nous n'avons pas de problème dans la santé. Mais nous sommes un peuple pauvre qui n'a pas ce que vous avez dans vos pays, toutes ces choses. Nous avons le plus important pour manger, de la nourriture naturelle, biologique. Mais nous n'avons pas d'électronique, par exemple. Nous n'avons pas beaucoup d'ordinateurs, de DVD à vendre.
Des connexions pour Internet aussi.
Oui, oui, c'est aussi un problème, l'accès à Internet. Écoutez, je vais vous parler de ma vie. Ma vie à Cuba est normale, vraiment. J'ai des difficultés, comme tous les Cubains. Oui, mais ma vie est normale parce que j'ai de la nourriture. J'ai une maison. Je n'ai pas besoin de payer pour avoir un toit. Je suis médecin à Cuba et je suis chanteur aussi. Je suis déjà allé en Europe, notamment en Suède. Je suis allé en Suisse, au Danemark, en Finlande, en Espagne pour faire de la musique. Je sais que vous avez des problèmes avec les impôts. À Cuba, nous n'avons pas ces problèmes. Mais je sais que nous avons des problèmes économiques. N'oubliez pas, souvenez-vous que nous avons le blocus. Malgré ça, nous sommes heureux ici à Cuba. Par exemple, nous n'avons pas de mafia. Pas de problème de drogue. C'est le plus important. Regardez là, regardez, les enfants jouent normalement. Vous pensez qu'ils joueraient au foot comme ça dans les rues s'ils étaient affamés ? Non. Je sais, et je le répète, je sais que nous avons des problèmes. Nous devons en être conscients, mais nous allons en venir à bout, à l'avenir. Ça va changer. Oui, la révolution va continuer parce qu'à Cuba, l'histoire est dans notre sang.
À quoi ressemblerait Cuba sans l'embargo ?
Peut-être comme l'Europe, mais avec une meilleure météo. Les États-Unis savent que Cuba est comme un diamant. Mais vous savez, quand je suis allé en Europe, j'ai vu quelque chose d'étrange. Les gens sont tristes à l'intérieur. Par exemple, Ils ne se parlent pas directement, seulement par Internet, seulement par Facebook. Ah, la technologie, ils me disent, oh, El Médico, tu es tellement intéressant, mais jamais face à moi. Pour moi, c'est triste. Les gens en Europe ont perdu le plus important. Le plus important, c'est la famille. Par exemple, en Suisse, j'ai vu comment ils se séparent de leurs personnes âgées. Elles vivent dans des maisons de retraite et leurs fils continuent leur vie comme ça. À Cuba, c'est différent. Nous vivons ensemble et nous restons ensemble jusqu'à notre mort. Nous protégeons les grands-parents. Nous les protégeons. C'est le plus important, la famille. Vous êtes des gens riches, mais vous êtes pauvres à l'intérieur. À Cuba, c'est différent. Nous sommes un pays pauvre, mais nous sommes riches à l'intérieur. C'est le plus important.
Au fur et à mesure de notre conversation, un jeune homme se rapproche de nous, son appareil photo à la main. Il s'appelle Brandon et il est américain.
Excusez-moi, je vous ai entendu et je voulais juste vous dire que j'étais désolé. Je fais partie de ces gens qui n'ont pas voté pour Donald Trump. On est très gênés.
Je sais que le peuple américain est différent de son gouvernement. Tous les Cubains le savent. C'est la vie. Peut-être que dans le futur, nous pourrons tous vivre ensemble, hein? Et nous serons très heureux, tous ensemble. Les États-Unis disent que nous sommes un pays dangereux, qu'il faut se méfier du socialisme, se méfier de Cuba. Mais ils ont besoin de connaître Cuba. Une fois qu'ils seront venus ici, ils commenceront à penser différemment.
Vous avez changé d'avis ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Fidel Castro est mort juste après mon arrivée. Et bien sûr, j'ai voulu savoir ce que pensent vraiment les Cubains, ce qu'ils ressentent vraiment et comment fonctionne réellement le socialisme, ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que rien n'est parfait.
Tout n'est pas parfait, je sais, mais les choses vont changer. Le futur sera différent, mais pas de la manière dont les États-Unis le veulent.
Pensez-vous que les choses peuvent changer à l'avenir à propos de Guantanamo, de l'embargo ? Vous êtes américain, vous avez une réponse, vous ?
C'est difficile à dire parce que personne ne sait ce que Donald Trump veut vraiment faire. Parce qu'il n'arrête pas de changer d'avis. Il dit une chose, puis son contraire. Il prétend jamais avoir dit ses propos. Et il a tellement de pouvoir, c'est ça qui est très inquiétant. Vous savez, Obama voulait fermer Guantanamo, mais il n'a pas pu, parce qu'il y a une opposition très forte au Congrès de la part des républicains. Alors qu'aujourd'hui, Trump a tous les républicains derrière lui, ce qui fait que, quel que soit ce qu'ils décideront de faire, ils auront les moyens de l'appliquer. Et j'ai très peur de cela.
Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une nouvelle alliance avec l'Europe ?
Nous sommes seuls. L'Europe ne m'a jamais, jamais protégé. Elle n'a jamais protégé mon pays. Nous nous battons seuls depuis très, très longtemps.
Con soles de primavera para plantar la bandera eterna de tu sonrisa.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Cuba face à l'Amérique de Donald Trump. Une nouvelle donne, c'était un reportage signé Sophie Delpont, réalisé par Annie Bro. Et nous sommes toujours en studio avec Jeannette Abel de l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine et Philippe Golub de l'Université américaine de Paris. Alors avant de parler de Trump et des relations à venir, évidemment, on voit que tout ça c'est en train de changer entre les États-Unis et Cuba. Une première question à vous, Madame Abel. Pour expliquer quand même le dessous des cartes qui permet ce rapprochement historique, on a bien compris que c'était historique, entre La Havane et Washington, il y a eu des négociations secrètes pendant des mois, et puis
des
il y a eu
même
des années, une vraie révolution quand même mentale à un moment donné, qui a permis en juillet 2015 à Obama d'annoncer qu'il y avait un rétablissement des relations diplomatiques. C'est quand même l'ennemi de toujours des États-Unis, Cuba.
Oui, alors il y a deux raisons, celle du côté américain, celle du côté états-unien, et puis celle du côté cubain. Et il y a deux raisons essentielles, et ensuite il y a une raison conjoncturelle. Je vais rapidement souligner la raison conjoncturelle. Le mandat de Raúl Castro se termine en 2018, et celui de Barack Obama en janvier 2017, ouais. Nous y sommes. Et donc, il y a une sorte de concordance des temps politiques hein, entre ces deux hommes d'État qui sont confrontés à quoi ? Pour Barack Obama, c'est évident, à un isolement très important dans la région latino-américaine qui est l'arrière-cour des États-Unis, qui représente le périmètre de sécurité des États-Unis depuis la doctrine Monroe, on pourrait même retourner plus loin. Et donc, je l'ai dit, je crois, à plusieurs reprises, mais Barack Obama risquait de se trouver en 2015, en avril 2015, au sommet des Amériques, devant des chaises vides, le sommet des Amériques étant supposé réunir tous les chefs d'État latino-américains, sauf Cuba, qui ne faisait pas partie de cette assemblée. Et donc, c'était un échec diplomatique majeur. Donc, nous avons, d'une part, une première raison, qui est la baisse, l'hégémonie en perte de vitesse des États-Unis dans la région. Et deuxièmement, l'échec de la stratégie antérieure, parce que la stratégie antérieure, notamment renforcée par Bush, mais bien antérieure à George Bush, est une stratégie qui visait à renverser le régime.
Et elle n'a pas marché. Le régime a survécu, évidemment, jusqu'à maintenant.
Le régime a survécu pendant des dizaines d'années. Et il ne faut pas dire que c'est seulement à cause de la répression qu'il a survécu. Mais peut-être nous y reviendrons. Et deuxièmement, côté cubain, la première raison est la gravité, d'une part la gravité de la situation économique. Une situation extrêmement difficile. Et deuxièmement, un problème politique très sérieux, la succession. C'était avant la mort de Fidel Castro, mais la succession était déjà engagée et les réformes économiques que Raúl Castro met en œuvre également. Et elles sont engagées maintenant depuis plusieurs années.
Depuis 2008,
oui,
en gros.
Et au passage, je comprends assez mal qu'un de vos intervenants dise qu'il ne voit pas de changement à Cuba depuis 10 ans. Moi, j'y vais très souvent et je peux vous dire que les changements sont non seulement visibles, mais ils sautent à la vue, littéralement.
C'est peut-être l'impatience, donc, l'impatience qui parle.
Le témoignage est un peu orienté. Si
donc on a bien compris des deux côtés une forme de réel politique.
Oui, voilà, non, des intérêts majeurs des deux côtés, différents, évidemment, mais qui coïncident avec le fait que deux présidents voient leur mandat arriver à terme et qu'ils considèrent tous les deux, alors j'ajoute pour Barack Obama, un intérêt à marquer sa présidence par un événement quand même historique.
Alors, on va justement se tourner vers Philippe Golub, qui est spécialiste des États-Unis. D'un autre côté, comme l'a dit aussi Madame Abel, il y a quand même toujours eu des liens entre Cuba et les États-Unis. Il y a quand même toujours eu, même les contacts n'ont jamais été interrompus entre ces deux pays, même s'ils sont ennemis. Pendant des années, ils se sont parlé avant de rétablir leurs relations diplomatiques.
Oui, mais on est dans une relation qui est une relation constamment conflictuelle, n'est-ce pas? Et dont le conflit s'enracine dans un passé très lointain, qui s'enracine avec la guerre contre l'Espagne, la guerre d'indépendance de 1898 et la prédominance américaine qui va suivre, n'est-ce pas? L'occupation américaine de Cuba, puis les traités inégaux en quelque sorte, le façonnage par les États-Unis de la constitution cubaine de 1901-1903 et donc l'affaire de Guantanamo
puis
évidemment
tard,
il y a toutes les interventions c'est très difficile de vivre et il faut comprendre du point de vue des différentes républiques d'Amérique centrale il était extrêmement difficile de vivre à l'ombre de cette immense puissance nord-américaine qui intervient constamment de façon coercitive dans la région et construit des républiques bananières. Avant de venir ici, j'ai relu le poème, le très beau poème de Pablo Neruda, United Fruit Company, sur justement les interventions états-unisiennes dans la région et qui dit très bien la réalité de la chose. Et ici, j'ai devant moi, j'ai recherché un tout petit peu, intervention militaire américaine, Honduras 1903, 1907, 1912, 1919, 1929, République dominicaine 1903, 1914, 1916, etc.
Voilà,
et ceci bien avant les interventions de guerre froide, qui sont des interventions qui sont motivées par l'anticommunisme, mais qui sont motivées par l'alliance historique tripartite entre l'État américain, le capital transnational représenté par les compagnies bananières au début, puis les autres compagnies transnationales américaines investies dans la région, et les oligarchies locales, et dans le cas de Cuba, la mafia et tout le reste. Donc, on est dans une relation très fortement conflictuelle depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle. Et si les États-Unis et Cuba continuent à se parler effectivement pendant les moments difficiles, y compris la crise des missiles de Cuba, il n'en reste pas moins. En 1962, effectivement, on n'en est pas moins dans une relation de conflictualité permanente.
Une question de Sophie Delpont.
Oui, Philippe Golub, pourriez-vous nous rappeler l'histoire de Guantanamo? Comment cette base s'est installée à cet endroit-là?
Alors, dans la première constitution cubaine, après la guerre américano-espagnole de 1898, la première constitution cubaine a été rédigée avec...
Avec l'amendement plate,
mais les négociations commencent en 1901, et en 1902, 1903, la constitution est passée, et l'amendement plate, c'est un amendement dans la constitution, qui est en annexe de la constitution, qui est importé dans la constitution cubaine, qui limite la souveraineté cubaine. En fait, on est dans une situation de souveraineté limitée dès le départ. Et Guantanamo est cédé à perpétuité aux États-Unis, même si dans le traité, il est écrit que Guantanamo est tout de même sous souveraineté cubaine.
C'est juridiquement, il y a tout un livre qui est écrit sur ce... Et je vous recommande aussi, enfin, éventuellement aux auditeurs de France Culture, l'article écrit par Michael Parmley, qui est l'ancien chargé d'affaires à l'époque où l'ambassade n'était pas encore une ambassade des États-Unis à La Havane. Et il a écrit un très long article sur le statut de Guantanamo, qui est une originalité juridique absolument incroyable. Parce qu'on reconnaît que c'est un territoire cubain, mais aucune limite n'est fixée à cette occupation. Donc, cette occupation de la base dépend intégralement de la bonne volonté du gouvernement américain.
Oui, et d'ailleurs, Roosevelt, en 1934, lorsqu'il abroge l'amendement Platt, Roosevelt n'élimine pas la clause donnant aux États-Unis le droit à perpétuité à la base de Guantanamo.
Alors, si on parle maintenant de l'embargo aujourd'hui, tel qu'il est quand même vécu par les Cubains et tel que probablement les Cubains souhaitent le voir disparaître, Madame Abel, qu'est-ce que ça signifierait pour eux? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de la fin de cette espèce de carcan qui les empêche
je voudrais souligner quand même que cet embargo... Alors, les Cubains disent blocus, et on a un grand débat terminologique sur cela. Je vais me réfugier derrière l'appréciation de l'ambassadeur de France, ancien ambassadeur de France, enfin, ambassadeur jusqu'à une période très récente, Jean Mendelssohn, qui lui dit embargo blocus. Voilà. C'est un embargo commercial. Je m'en tiendrai quand même d'abord à cette définition, mais qui est extrêmement grave et qui a des conséquences très très lourdes. Je pourrais en citer, y compris par rapport aux entreprises françaises. Pernod Ricard qui ne peut pas avoir accès pour vendre son rhum au marché américain.
Les médicaments, tout
ce qui concerne évidemment aussi une grande partie de l'alimentation, le fait qu'un port, que par exemple un bateau, pardon, qui accoste à La Havane ou dans un port cubain, ne peut pas ensuite se rendre sur le territoire, ne peut pas accoster sur un port américain, le fait que si Accor, les hôtels, etc., veut construire des hôtels aux États-Unis, il doit faire extrêmement attention dans les constructions d'hôtels qu'il engage à Cuba parce qu'il peut se construire sur un territoire ou sur un endroit, en tous les cas, qui a appartenu à une entreprise auparavant cubaine, etc.
Et on pourrait... Donc toute une série, évidemment, de mesures qui visent à étouffer vraiment l'économie cubaine.
Oui, il n'y a aucun doute. Enfin, et Rafael Correa citait récemment... Le président équatorien disait à juste titre que si on avait infligé pendant plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle, un tel embargo à d'autres pays, un pays d'Europe occidentale par exemple, les conséquences seraient terribles parce que c'est l'embargo de la première puissance économique du monde, tout simplement. Donc, il souhaite, écoutez, les déclarations maintenant sont incessantes. Nous voulons des investissements étrangers, nous voulons la levée de l'embargo, nous avons besoin.
Mais alors, des investissements étrangers, ça nécessite quand même, enfin, on va en parler avec Philippe Golub, mais ça nécessiterait quand même, j'imagine, une modification de l'économie cubaine telle qu'elle fonctionne aujourd'hui,
une ouverture et une volonté, une acceptation
de la part de Raoul Castro.
Tout à fait, mais elle est en cours. Le problème, c'est qu'elle est lente et graduelle et prudente. Mais on peut comprendre pourquoi, parce qu'elle provoque des tensions sociales qui sont considérables. Et ces tensions, et là, je trouve que les témoignages qu'on a entendus sont un peu unilatéraux pour la raison suivante, c'est que le problème maintenant, c'est que vous avez un secteur privé émergent, qui devient de plus en plus important. Un des témoignages évoque par exemple le fait qu'il y a 15 000 de dollars de réparation de la maison. Je peux vous assurer que ces 15 000 dollars ne viennent pas des revenus de la famille. D'où
tout à fait, de l'étranger.
Hein, ils viennent de Miami.
Bien sûr, bon. De Miami ou d'ailleurs. Et
voilà.
Et d'une famille et ça, qui apporte de l'argent
bien
d'étranger.
Bien sûr. Alors, le problème n'est pas d'être pour ou contre. Le problème, c'est que ça, c'est extrêmement sensible pour la partie de la population qui n'a pas de famille à l'étranger, qui est salariée de l'État, elle reste majoritaire, qui ne touche ses salaires qu'en pesos, alors qu'il y a une autre monnaie forte, et qui par conséquent...
Il faut dire que l'écart entre ces deux monnaies est de 24, quoi.
Et de 24, c'est monstrueux comme écart. Si vous voulez, un dollar égale 24 pesos. Donc si vous n'êtes payé pour... C'est un peu compliqué, mais c'est pour résumer de manière un peu schématique, si vous n'êtes payé qu'en pesos...
Cubain,
pesos cubains, vous êtes salarié de l'État... Alors que 1 dollar égale 24 pesos, n'importe qui, puis pour donner un exemple simple, qui touche un pourboire de 5 dollars dans un hôtel, vous imaginez en une journée, ce qui n'est pas grand-chose.
Oui, il gagnera plus que quelqu'un en un mois.
Voilà. Mmh. Et donc, on va se trouver aussitôt dans une situation d'inégalité. Et je vais vous dire ce qui caractérise les tensions qu'on a perçues au travers de quelques témoignages que je trouve quand même un peu déséquilibrés. Mais vous avez des tensions, évidemment, une montée des inégalités, une montée de la pauvreté.
Qui fait forcément peur à la société et au régime, bien entendu, sur la défensive. Philippe Golub, on parle de Trump, évidemment, en filigrane dans le reportage. Quelle est la chance, disons, que Trump accède à cette levée de l'embargo? Est-ce qu'il y a une petite chance qu'il a fait des déclarations anticastristes dès le départ? Mais est-ce que vous percevez qu'il y a peut-être quand même une volonté de faire quelque chose pour Cuba de la part de la nouvelle Amérique, on va dire?
Je ne peux pas répondre directement à cette question, parce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui ce que Trump fera dans telle ou telle situation concrète dans un endroit ou dans un autre endroit du monde. Il est possible que oui, pour des raisons financières et économiques, qu'il y ait des intérêts économiques et financiers qui le poussent à investir dans Cuba et à continuer la politique d'Obama de ce point de vue-là. Il y a d'autres intérêts certainement qui vont le pousser à durcir la position américaine diplomatique vis-à-vis de Cuba. Le problème de l'investissement international à Cuba aujourd'hui est un problème traditionnel pour toute l'Amérique centrale, mais aussi pour les autres pays dit en voie de développement, c'est-à-dire quels investissements? C'est pour produire de la croissance sans développement. La question est véritablement quels investissements pour produire du développement durable à terme, c'est-à-dire de faire hausser les niveaux de vie dans l'ensemble de la population sans effectivement engendrer le genre d'inégalité, de fracture sociale que l'on voit dans les pays où l'investissement international est tout à fait libre, mais où il n'y a pas, ce sont des enclaves. Des enclaves qui sont séparées de la société dans son ensemble. Les théories de la dépendance ont très bien montré ça vis-à-vis de l'Amérique latine. Des enclaves qui ne produisent pas du développement. Le premier facteur de développement au Mexique aujourd'hui, ce ne sont pas tellement les investissements internationaux au Mexique, bien que ça contribue en partie, ce sont les remittances, les envois par les Mexicains vivant aux États-Unis.
D'argent
au Mexique, n'est-ce pas? Donc la question est de savoir quel genre d'investissement international. Et donc il faudra un État fort et cohérent à Cuba pour canaliser l'investissement international.
Une question de Sophie Delpont.
Et justement, pour vous, comment ça peut évoluer si jamais on avait donc ces investissements qui arrivent? Est-ce que le régime pourrait éclater? Est-ce qu'il y aurait aussi, en parallèle, une libération de la parole? Est-ce que ça pourrait aller ensemble, développement économique et développement des libertés?
Moi, je suis incapable de répondre aux questions internes de la société cubaine. Donc,
qu'en pensez-vous?
Oui, mais c'est Philippe qui... Écoutez, ça, c'est difficile de répondre, hein, parce qu'on n'est pas... Mais pour l'instant, je répondrai plutôt non. C'est-à-dire, j'ai plutôt le sentiment, mais je le dis avec prudence, qu'une amélioration du niveau de vie, de la vie quotidienne, etc., ça serait plutôt une aide pour le gouvernement, et ça consoliderait sa base sociale. Il y a essentiellement deux choses auxquelles les Cubains tiennent. Et je crois que ça, c'est la première, je suis absolument convaincue qu'elle est majoritaire, c'est le sentiment national. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de souveraineté nationale d'une très grande puissance pour les raisons historiques que Philippe Golub rappelait.
Et à la mort de Fidel Castro, ça a été encore renforcé dans l'hommage national rendu au commandanté.
Tout à fait. Donc ça, c'est un socle très important. Il y en a un deuxième, il est plus menacé, celui-là, c'est la justice sociale. Et il est menacé par les réformes, si vous voulez. C'est pour ça qu'on est dans une contradiction très grande, parce que ces réformes, elles engendrent l'inverse de la justice sociale qui régnait antérieurement. C'est exactement le contraire. Voilà. Et donc, c'est... Peut-être que, avec, enfin, je pense plutôt qu'en gardant ce que disait Philippe Golub, c'est un état fort, avec ouais. ce que ça implique, en gardant un état fort, mais à condition que le niveau de vie, la vie quotidienne s'améliore, il est possible.
Qu'une libéralisation économique voilà. ne nuise pas au régime.
Et qu'elle ouais. entraîne même une plus grande tolérance politique. Et ce qui est entre nous existe déjà quand même, hein. On ne le percevait pas tout à l'heure.
Et je voulais rajouter quelque chose justement à ce propos-là. Vous disiez, il y a plus de liberté qu'on peut voilà, le dire oui. parfois. Voilà. Notamment, vous disiez, sur l'évolution, les réformes du régime, Raoul Castro a voulu massivement supprimer des postes de fonctionnaires
oui.
et le Parti communiste a résisté
tout à, fait.
À empêcher la mise en place
tout
de cette réforme
fait.
Jusqu'à son terme.
C'est un bastion. Alors,
voilà. si assez paradoxal
Cuba,
pour Cuba.
Bon.
D'un regard extérieur.
On est confronté à une double évolution. C'est-à-dire que d'un côté, il y a, et notamment à l'initiative des forces armées, hein, sur le plan économique, une libéralisation incontestable. D'autre part, le pouvoir veut quand même conserver le contrôle politique de tout ça.
Mais toujours un parti unique, on peut peut-être le
voilà,
dire.
Ah, voilà, par exemple. Un parti unique n'est oui. pas en débat. Mmh. Mais il y a une plus grande tolérance politique et il y a des réformes constitutionnelles qui vont être adoptées, elles sont annoncées. Et il est possible, je pense, qu'il y ait un pluripartisme sans plusieurs partis qui s'installent peu à peu à condition que la situation économique s'améliore. Mmh.
Alors on va parler un tout petit peu quand même de l'opposition ou du moins de la dissidence des prisonniers politiques. Peut-être avec vous Philippe Golub, Donald Trump notamment souhaite quand même qu'en matière des droits de l'homme, Cuba fasse des efforts. Ça fait partie de ce qu'il demande.
Oui, peut-être que Donald Trump devrait faire des efforts de ce point de vue-là aussi, puisque Donald Trump a annoncé publiquement qu'à plusieurs reprises qu'il allait intensifier les programmes, il allait relancer et intensifier les programmes de torture de l'État américain.
Donc il n'a peut-être pas de leçons à donner à
je ne pense pas que Donald Trump, pour l'instant, ait de leçons. Je voulais simplement dire une chose très brièvement sur la question de la libéralisation politique et de l'État fort et tout ça. C'est pour ne pas donner une fausse impression, nous avons en Chine, en Asie du Sud-Est et en Asie orientale des États forts qui ont réussi des programmes de développement fondamentaux, n'est-ce pas, tout en évidemment créant de nouvelles formes d'inégalités sociales très importantes, en Chine en particulier. Et la question est de savoir comment justement le parti État cubain saura gérer ça. Ce sera la chinoise ou ce sera autrement?
Alors, ce sera la russe.
Je peux dire un mot
sur
ça,
bien
parce
sûr,
que les économistes cubains que j'ai rencontrés donc récemment, y compris très récemment, où certains d'entre eux étaient à Paris, disent que ce ne sera pas la Chine et pas le Vietnam. Et en partie, c'est vrai que c'est une transition sui generis, mais en partie quand même, il y a une inspiration. C'est-à-dire l'inspiration, c'est un pouvoir fort pour résister aux États-Unis, etc. Mais en même temps, je crois sur le plan politique une ouverture inévitable. Pas vers un pluripartisme organisé, hein, mais...
Alors... Que dire quand même donc de la répression? On a entendu plusieurs personnes qui disent qu'elles se font arrêter régulièrement à Cuba. On ne sait pas exactement combien il y a de prisonniers politiques.
Alors, écoutez, moi, je vous renvoie, tout à l'heure, je réagissais un peu, je vous renvoie au rapport d'Amnesty International qui me semble relativement fiable. Il y a d'abord, dans la politique de répression aujourd'hui, une politique de harcèlement et d'intimidation de l'opposition. C'est ça à quoi on assiste. Ça n'est pas la même chose que ce qui existait auparavant, qui avait une toute autre intensité, avec des gens qui pouvaient rester en prison très longtemps, et maintenant on les relâche. Donc c'est quand même un changement, bon, très limité, je l'accorde, mais c'est un changement.
Oui, alors je peux peut-être juste citer un chiffre, ça va, c'est exactement dans votre sens. La Commission cubaine des droits de l'homme qui est tolérée a dit qu'il y a eu 10 000 arrestations en 2016.
Voilà, oui,
donc, mais des arrestations très rapides, quoi.
Oui. On arrête les gens, on les relâche. On arrête. Donc quand je dis harcèlement et intimidation, c'est exactement ça, dans la période actuelle. Mais la liberté d'expression, ça je peux vous dire, ce qui est écrit dans les revues, dans les livres aujourd'hui, sur les blogs surtout, n'a rien à voir avec le passé. Hein. On est en train de régler les comptes, les intellectuels, tous mes amis, les chercheurs sont en train de régler leurs comptes avec les années de plomb, en particulier les années 70, les années de la soviétisation, et maintenant vous pouvez écrire pratiquement ce que vous voulez sur les blogs. Évidemment, l'accès à Internet est encore limité.
Mais c'est un changement majeur, ça, quand même.
Majeur, et Google arrive.
Voilà, alors on voulait terminer sur Internet, il ne nous reste plus que 30 secondes, mais parce que ça c'est quand même aussi peut-être par là que finalement Cuba va vraiment s'ouvrir.
Oui, c'est déjà le cas chez les jeunes.
C'est impressionnant l'évolution des smartphones entre les mains des jeunes. En 2 ans seulement, c'est impressionnant.
Vous avez des hotspots maintenant partout, c'est pas suffisant.
Des points où on a accès au Wi-Fi.
Voilà, les gens sont assis sur les trottoirs, vous les voyez avec leur ordinateur, leur téléphone, et ils sont en train, et ça c'est un bouleversement total. Écoutez, on arrive à Cuba, d'ailleurs tous, avec en plus des clés USB, des textes, bon, de tout ce que vous voulez, ils copient, et puis ça fait le tour de l'île. C'est un bouleversement. C'est pour ça que je crois que là-dessus, c'est un processus inévitable et qu'on va vers une forme quand même.
Une forme d'ouverture de toute façon. Inévitable. Bah, merci beaucoup, Jeannette Abel, Philippe Golub, d'avoir participé tous les deux à ce magazine de la rédaction. Cuba face à l'Amérique de Donald Trump. Une nouvelle donne. C'était un reportage de Sophie Del. Pour Merci Sophie. Réalisé par Annie Bro. À la technique ce soir, Nicolas Delmas. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an et la commenter également sur notre site franceculture.fr. Depuis la diffusion de ce magazine de la rédaction, Sophie, les relations entre Cuba et les États-Unis se sont encore tendues. Donald Trump a tenu un discours extrêmement offensif, qualifiant même de brutal le régime cubain devant des anticastristes qui étaient réunis dans un théâtre. Ça s'est passé à Miami le 16 juin dernier. Le président américain a affirmé sa volonté de revenir sur la politique d'ouverture menée par Barack Obama. Il marque ainsi un retour en arrière dans le dégel des relations entre les deux pays.
Oui, effectivement, Donald Trump a déclaré l'annulation avec effet immédiat de l'accord conclu fin 2014 par Barack Obama. Il veut recalibrer le rapprochement avec Cuba. Le président américain souhaite limiter les transactions avec les entités contrôlées par l'armée cubaine et elles sont omniprésentes dans le secteur du tourisme. L'île ne négociera jamais sous la pression, a répondu le ministre cubain des Affaires étrangères. Bruno Rodriguez s'est élevé contre ce qu'il qualifie de spectacle grotesque. Il dénonce un recul dans les relations bilatérales, une rhétorique hostile rappelant les temps de la confrontation ouverte de la guerre froide. Alors que le président américain envisage également une application plus stricte des restrictions sur les voyages américains vers l'île communiste, La Havane pourrait également restreindre les libertés des citoyens américains désirant voyager à Cuba.
En remettant en cause la série d'assouplissements à l'embargo américain qui ont été concédés par l'administration Obama, Washington risque d'obtenir l'effet contraire à ce qu'il souhaite.
Oui, c'est l'inquiétude de plusieurs dissidents modérés. En ne soutenant pas l'essor cubain entamé via le tourisme, les partisans d'une ligne dure au sein du gouvernement communiste pourraient alors être confortés. L'embargo en place depuis 1962 n'a jamais entraîné le soulèvement de la population contre son gouvernement, comme l'escomptait son puissant voisin. Tandis que le développement du secteur privé permet à beaucoup de Cubains d'améliorer leurs conditions de vie en se procurant des cooks, cette monnaie réservée aux touristes et qui permet d'acheter notamment des biens manufacturés. Alors que les habitants espèrent toujours la levée de l'embargo, le ministre cubain des Affaires étrangères réaffirme vouloir poursuivre malgré tout le dialogue avec les États-Unis. Bruno Rodriguez estime qu'il n'y a aucun doute qu'un gouvernement lèvera l'embargo en invoquant par là le sens de l'histoire.
Merci Sophie Delpont. On peut retrouver votre magazine de la rédaction sur notre site franceculture.fr.